Cette semaine, dans notre freestyle intempestif, nous vous proposons un entretien avec Christine Guinaman, qui expose à la VRAC de Millau depuis le 30 juin et jusqu'au 29 septembre. Christine Guinaman, vous exposez à la VRAC de Millau une œuvre intitulée « Sous le soleil exactement ». Alors, il s'agit d'une grande toile qui fait environ 2,20 m par 6,50 m. Et cette grande toile, elle épouse les murs de la vitrine, donc le U que forment les murs de la vitrine. Est-ce que ça, c'est une autre manière de travailler le relief ?
Alors, c'est plutôt... ça n'est pas une histoire de relief, mais plutôt une façon d'être absorbé ou pas par une superficie, on va dire, peinte, effectivement. Mais c'est plutôt une fracture dans l'espace peint, c'est-à-dire une espèce de mise en abîme et une façon d'happer celui qui regarde ou celui qui est devant, une sorte d'immersion. Donc le fait, effectivement, qu'elle soit assez importante et qu'elle soit disposée dans l'espace de cette façon-là, on est en peinture, dans la peinture. Et puisqu'elle elle représente, pour faire simple, un paysage, en tout cas on reconnaît des éléments de paysage, donc c'est une façon de faire rentrer celui qui regarde physiquement, c'est-à-dire en dimension physique. Donc c'est pas vraiment une histoire de relief. Voilà. Et on serait plus dans une construction, en fait, presque un... C'est un peu un volume, mais qui est un volume coloré, plat, mais qui serait plutôt un espace, aussi un caisson, qui fait presque office de caisson, en fait.
Est-ce que la toile, c'est un de vos supports habituels ? Et qu'est-ce que ça a de particulier de travailler une toile de cette dimension-là ?
Alors, j'utilise beaucoup de matériaux différents. Et on va dire que le travail qui est le plus connu, c'est un travail de peinture. Mais j'utilise du bois, j'ai fait donc des sculptures, j'ai utilisé du métal, j'ai fait aussi beaucoup de gravures. Et en ce moment, je fais plutôt des très grands formats sur une toile libre, ce qui est aussi assez récent, puisque d'habitude, j'utilisais des toiles qui étaient montées sur des châssis. Et là, le fait d'avoir de la toile libre, elle est gérable, elle est sculptable, c'est-à-dire qu'on peut la graffer, la transporter aussi plus facilement. Et là, cette pièce-là épouse donc du coup l'espace de la vitrine, et donc ça n'est pas systématique, mais j'utilise quand même le plus souvent de la toile et là récemment donc de la toile libre.
Et cette toile libre, vous n'avez jamais envie de la maroufler, par exemple ?
Ah, j'ai marouflé des papiers. Alors le marouflage, c'est toute une histoire assez complexe, puisque des petits formats, voilà, ça demande quand même une technicité particulière. Donc j'ai marouflé beaucoup de papier, mais de petits formats sur toile. Et là, advienne que pourra, en fait, c'est-à-dire aussi le futur de la toile, en fait, c'est presque... Ça n'est pas moi qui décide, parce que si ça se trouve, elle va repartir, donc rouler et retourner dans un coin de l'atelier. Si quelqu'un... a envie de proposer un autre lieu d'exposition, elle sera peut-être exposée justement à plat, pas dans cette... parce qu'elle a été construite en fait en partie en angle cet hiver, et puis ensuite je l'ai déroulée et continuée la partie de gauche à plat à l'atelier. Donc c'est un petit peu c'est pas une histoire sans fin, mais il n'y a pas de choses prédéfinies et il n'y a pas de choses qui sont non plus fixées. Elle peut être, si ça se trouve, marouflée, suspendue, montée sur un châssis. Le tout est que ça fonctionne, c'est-à-dire on peut trouver des solutions. C'est comme une peinture qui serait un petit peu en mouvance, même si elle est fixe. Et donc il n'y a pas de choses prédéfinies à l'avance. Donc là, je l'ai pensée construite en sachant qu'elle allait être disposée de cette façon-là. Mais il y a plein de peintures ou de sculptures qui peuvent fonctionner de façon différente dans des espaces en fonction des lieux. Et donc voilà, c'est pas un sans limite, mais c'est quelque chose qui est modulable en tout cas. Voilà.
Oui, alors justement sur l'idée de sans limite, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de bord définitivement fixé à cette toile?
Ah bah oui, ça c'est intéressant parce que quand donc on a fini d'accrocher, je me suis dit, on a envie qu'elle continue en fait. Donc pourquoi pas monter, continuer pour un autre espace ou quelque chose d'autre, faire des parties qui viendraient continuer en fait comme un espèce de rhizome qui est déjà ce qu'on retrouve dans la peinture, mais qui pourrait être un rhizome non pas sans fin, parce que mais oui, continuer, pourquoi pas, oui, continuer en la faire grossir vraiment comme quelque chose qui viendrait ronger les espaces au fur et à mesure de là où on va accrocher les pièces. Après, on est toujours, il y a toujours une limite, la limite du lieu de travail. D'ailleurs, elle devait être beaucoup plus grande au début. Et puis, les hauteurs de plafond sont limitées. Je n'ai pas encore ni le lieu, ni les moyens de trouver des espaces où je peux travailler avec des grandes hauteurs de plafond, des longueurs interminables. Donc on est toujours limité par des problèmes de matériaux ou d'espace, mais avec grand plaisir, ce serait de trouver une usine ou un lieu où on puisse travailler longtemps et faire des formats. D'ailleurs, ce qui va, sous peu, là en rentrant, je vais travailler sur 4 très grandes pièces aussi, qui vont être dans un autre système en forme de fanion en fait. Et donc ce sera des grandes pièces qui vont faire aussi 5 mètres, donc 5 mètres par 2,70, puis deux autres. Et là, il faut trouver un autre système, puisque l'atelier ne permet pas de les travailler en format paysage, on va dire. Donc, il va falloir trouver d'autres techniques en déroulant, à inventer d'autres outils, et trouver d'autres systèmes de travail. Mais c'est bien, parce que ça permet d'aller vers des choses vers lesquelles on n'irait pas, en fait, en étant... c'est ces projets aussi, ces nouveaux projets. Le projet dont je parle, là, c'est pour... l'année prochaine pour le château de Maison Lafitte et en mai 2018. Et donc c'est tout un d'autres questionnements, d'autres problématiques qu'il faut régler, et c'est comme un jeu excitant parfois, mais donc elle pourrait effectivement être continuée.
Peinture, Christine Guinamant, c'est une peinture qui est très colorée, qui est aussi très dense, il y a peu d'espace inoccupé. Et dans cette peinture-là, Sous le soleil exactement, il y a quelque chose qui m'évoque un couvert végétal, quelque chose comme un sous-bois, mais qui serait très, très, là aussi très dense et qui serait traversé peut-être d'apparitions ou de spectres.
Alors le couvert végétal, c'est une magnifique image et qui me convient, enfin d'autant plus. Donc j'ai un jardin, comme certaines personnes le savent, et un jardin qui est très complexe, c'est-à-dire il n'est pas très très grand, mais il est constitué de dizaines et de centaines d'espèces et d'essences différentes. Et donc du coup, le jardin est construit comme les peintures, et les peintures construisent le jardin. Enfin, je ne sais pas qui déborde sur qui. Mais en fait, donc c'est on va dire, pour faire court, c'est un petit peu proche d'un jardin à l'anglaise qui paraît très très bordélique, mais en fait qui est très très structuré. Et donc on est perdu un peu quand on arrive dans le jardin, dans une espèce de jungle, et on est un peu hors monde. Et donc effectivement, cette multitude et cette presque asphyxie en fait, de la peinture et de la multitude des actions, en fait, des écritures. C'est-à-dire il y a du liquide, des effacements, des surexpositions, des superpositions. C'est effectivement une espèce de brouhaha comme ça qui paraît très... Donc c'est très gestuel, c'est très sismique. Mais en même temps, c'est très, très géré, très construit. Donc parce que je travaille aussi avec un miroir, donc je travaille à l'envers. Parce que quand on est dans le faire, toutes ces actions et toutes ces pensées qui arrivent entre la forme, le récit, ce qu'on montre, ce qu'on garde, ce qu'on décide de supprimer, en fait, pour revenir de nouveau sur ses pieds et pour être dissocié en fait de toutes ces actions. Donc je travaille à l'envers et donc je construis en fait les peintures en regardant dans un miroir. Comme j'ai travaillé aussi j'ai fait de la gravure. Et en gravure, on travaille sur les plaques. Et donc, il faut penser à l'envers, puisqu'on va être imprimé sur papier. Voilà. Donc, la trace va être l'autre côté, en fait. Et donc, le fait de travailler avec un miroir aussi, c'est un système ancien qui permet de... Les gens, parfois, ne comprennent pas quand ils ont... C'est aussi une habitude de travail. C'est-à-dire que ça... C'est comme si on avait... Donc, là, par exemple, c'est le cas, un très, très, très grand format. Et ça permet de voir comme une toute petite vignette... où les lignes vont être accentuées, les masses colorées. Et donc, on oublie un peu parfois ce qui est raconté pour aller vers quelque chose qui va être plus construit au niveau formel, au niveau coloré, au niveau des lignes, des structures, des fractures, des trous, des percées. Et donc, c'est une façon de gérer ça sans l'empathie de la peinture ou sans quelque chose qui serait trop dans le... Dans l'action faite, en fait. Donc, il faut sortir de ça. Après, il y a d'autres solutions. C'est soit faire des photos à la fin de la journée d'atelier et les basculer sur l'ordinateur rapidement et les faire dérouler, en fait, en panorama, enfin, voilà, diaporama. En diaporama, pardon. Et donc, c'est une façon de gérer en dehors de l'atelier des choses avec qui sont vraiment des problématiques formelles et qui vont dépasser parfois ce qui était ce qui pourrait être fait en fait dans le fer, dans le magma du fer de l'atelier, où parfois on sait plus trop où on en est parce qu'on est tellement la tête dans le guidon. Donc voilà, donc c'est une façon de sortir de ça. Et pour en revenir à ce qu'on disait à propos du tapis végétal, donc comme je vous parlais du jardin, c'est une construction de une forêt, c'est 10 000 actions. Enfin, 10 000 actions, c'est la pousse de champignons, mais la pousse de champignons est arrivée parce qu'il y a l'humus qui est créé par les feuilles qui sont tombées, les épines, etc., par des passages d'animaux sauvages, etc. Et ce grand magma de la forêt ou du jardin, on le retrouve dans la peinture parce qu'on est aussi multiple, et comme la main c'est le prolongement de l'esprit qui regarde, qui pense, donc je pense que j'ai envie de retraduire ces multiplicités d'actions qui sont le prolongement de ce qu'on est et de ce qu'on voit. Donc effectivement, c'est des espaces très très saturés, très très colorés. Et la couleur est là pour prendre aussi souvent le contrepoids des propos qui sont... Enfin, pas des propos, mais de ce qui est raconté. Parce que ce qui est raconté, en général, est plutôt, on va dire, avec des problématiques ou des sujets assez durs. Je travaille énormément autour de la guerre de 14-18, autour du suicide. J'ai fait une série de dessins d'après les photos de Diane Arbus dans les hôpitaux psychiatriques. Donc tout ce qui m'intéresse sont des sujets. J'aime pas tellement ce mot sujet, mais assez dur. Et donc effectivement, la couleur, peut-être inconsciemment, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses inconscientes, c'est une façon d'aspirer et de happer celui qui se retrouve devant ces pièces-là pour le faire basculer dans une possibilité de regard. Parce que parfois, il peut y avoir une espèce de frontalité ou de choses assez dures. Et donc, c'est une façon de faire basculer, d'aspirer d'une façon un peu tordu peut-être, celui qui va se retrouver devant ces peintures.
Cette dimension peut-être narrative dans votre peinture, est-ce qu'elle est toujours volontaire ?
Alors, il y a des, c'est comme J'essaye de... Enfin, j'essaye. C'est, pour moi, c'est assez important qu'il y ait de l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est-à-dire, on regarde, est-ce qu'on est sûr de bien avoir vu ? Est-ce que oui ? Donc, alors, il y a des parties qui vont être plus écrites, on va dire reconnaissables, ou je vais reconnaître, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont, est-ce que c'est un soleil ? Est-ce que c'est un trou ? Est-ce que c'est un impact ? Est-ce que c'est un à travers ? Est-ce que c'est la possibilité de voir quelque chose et qui va... où il y a une multitude de possibilités de lecture, en fait, de ce qu'on voit, permet, en fait, je pense, une espèce d'immersion possible et pas fixée. J'ai un peu du mal avec les choses qui sont définitives, fixées, avec une imagerie de l'immédiateté. Donc, le fait d'écrire des choses qui sont reconnaissables mais aussi ambiguës. Par exemple, là, sur une partie de la peinture, on voit une tête, on comprend que c'est une tête, mais une tête qui est sur une tablette ou un socle ou un trépied, on ne sait pas très bien. Est-ce que c'est une esquisse, par exemple, dans les ateliers de sculpture, on voit des prémices de sculpture d'un buste qui vont être juste... commencer donc avec des bouts dans... Donc on va avoir une idée de la tête, ou est-ce que c'est des têtes effectivement décapitées, est-ce que c'est un buste, est-ce que c'est une sculpture, est-ce que c'est une proposition, on ne sait pas. En même temps, elle se retrouve dans le paysage, toutes les peintures aussi sont fonctionnent toutes en rhizome, c'est-à-dire que là, dans les séries précédentes, j'ai fait toute une série de peintures autour de la colonie pénitentiaire de Kafka. Et donc, il y avait des éléments de machine, donc c'est cette fameuse machine, hein, qui tatoue à mort des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont condamnés, en fait, à mort. Donc, c'est l'aberration du système judiciaire, etc. Donc, on retrouve des éléments des séries précédentes et qui vont comme ça, comme à ricocher, en fait, sur les peintures qui vont advenir. Par exemple dans celle qui est présentée à la VRAC ces jours-ci, mais aussi un écho aussi à ce qui se passe dans la région, parce que j'avais envie de faire une peinture qui était proche aussi des habitants de la région. Donc on peut retrouver, quand on parlait d'ambiguïté, là par exemple il y a une plante qu'on trouve sur les plateaux autour de Millau qui s'appelle la cardabelle, et qui est cette feuille, cette fleur, ce chardon. Quand on le voit, la première fois que j'en ai vu un, donc ils étaient cloués sur les portes dans les villages sur les montagnes là, et j'étais assez émerveillée de cette fleur chardon qui ressemble à un soleil, à un disque solaire, mais qui ressemble aussi à une lame de scie circulaire. Et donc il y avait cette espèce de violence dans cette fleur, et en même temps de beauté, et puis donc elle a été protégée parce qu'elle se mange. Et donc il y avait tout le va-et-vient en regardant cette fleur, qui était aussi, donc qui est clouée parce qu'elle protège les troupeaux, etc., etc. Mais en même temps, c'est quand même, elle est agressive, elle se protège, elle pousse aussi au ras du sol. Donc j'ai essayé de reprendre des éléments qu'on retrouvait dans la végétation ici de la région. Donc cette fleur qu'on retrouve, donc qui va se transformer en quoi ? En trou, en perforation, en soleil qui émane, qui rayonne, mais en même temps les rayons du soleil coupent, découpent, c'est au scalpel, hein, c'est des peintures aussi au scalpel, où donc du coup le c'est une espèce de grand territoire du basculement, en fait, ces peintures, c'est-à-dire c'est la forme ou la couleur, c'est la peinture qui appelle la peinture. Qu'est-ce qui va dériver ? Tout le monde me demande comment je commence. En général, c'est un travail, on va dire, assez occupation de l'espace d'un jet au début pour mettre pour mettre de la vie, du fond. Alors c'est souvent, ça peut être des jus. Et après, en fonction de ce qui advient, en ayant fait beaucoup de recherches aussi auparavant, et ensuite les choses découlent en fait du début, qui ensuite va être la boule de neige et qui va finir, on ne sait jamais en fait comment ça finit, mais, euh, mais donc qui a donné cette grande peinture. Donc là aussi, il y a on voit des vautours, parce que j'avais envie aussi, hein, j'ai expliqué ça hier au vernissage, c'est que j'avais envie aussi que les gens de ce territoire-là soient aussi inclus dans ce choix et dans ce qui avait été montré. Parce que je pense que le travail de Lavrac est très important, parce que donc elle se situe dans la rue, elle est accessible à tout le monde, à tout un chacun, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été habitués pour ouvrir une porte de galerie ou pousser la porte d'un musée. Et je pense que le travail qui est fait ici est très important et devrait être multiplié d'ailleurs un peu plus dans toutes les villes de France, parce qu'il y a une facilité d'accès et j'avais envie de redoubler en fait et de prendre en compte aussi la vie des habitants de Millau, de la région, même si on sait qu'il y a beaucoup de touristes l'été ici. Mais vraiment d'ailleurs hier soir c'est ce qui s'est passé, hein, les gens étaient... se sentaient aussi chez eux dans la peinture, même si elle est assez chargée, bloquée, asphyxiante aussi. Mais ça, c'était important pour de faire cette pièce pour en écoutant le tout.
Vous avez parlé des allers-retours possibles qui existent entre votre jardin, votre peinture. Vous avez parlé de cette évocation de la cardabelle, qui est une plante emblématique des Causses. Dans un organisme végétal, souvent, il y a une structuration d'ordre fractal. Est-ce que c'est la même chose dans votre peinture ?
Alors, quand j'entends fractal, je pense à fracture et je pense à morcellement. C'est cassé. Alors c'est fracturé, mais comme si c'était rapiécé, pas à l'infini, mais je parlais de lumière stroboscopique il y a pas très longtemps, et c'est comme des flashs et des morceaux, mais qui seraient par ces grandes lignes, ou ces amas, ou ces surimpressions de peinture, qui viennent quelque part raccommoder et reconstruire ce qui a été fracturé en fait dans l'espace et dans la peinture. Donc c'est... c'est cassé. Il y a quelque chose de cassé, mais en même temps, on se retrouve devant... donc moi, ça m'échappe un petit peu, hein, parce que celui qui fait n'est pas forcément le mieux placé, en fait, pour se rendre compte de ce qui se passe. Et quand vous vous retrouvez dans cette peinture, c'est le résultat de dizaines et de dizaines d'actions, d'ateliers, de réflexions, mais qui sont quand on prend une couleur ou un pinceau et qu'on on trace une ligne, on va découper ou couper. Alors qu'est-ce qu'on coupe ? On coupe la forme, on coupe ce qui a été dit, on coupe le récit. Et donc cette fracture, elle est recousue en permanence par des giclures, par des dégoulinures, par des actions peintes, mais qui font écho à des choses qui d'ailleurs sont proches parfois d'actions de couture réelle, pour être proche d'ailleurs, j'ai envie de travailler en ce moment autour du tissu. Et donc oui, on peut parler de choses fracturées, cassées, recousues. Je pense que oui. Ouais.
Vous citiez tout à l'heure la gravure comme une de vos activités. Dans la gravure, le geste souvent consiste à pousser l'outil. En peinture, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Expliquez-moi comment vous faites avec les outils.
Alors avec les outils, il faut déjà se dire que tout est outil. Hein. C'est-à-dire que l'outil n'est pas un outil avec un manche forcément et avec des poils au bout. Un outil, c'est son doigt. Enfin, les grottes de Lascaux, les premiers outils, c'était des mains. Donc je peins effectivement aussi avec mes mains. Ça paraît, donc il y a un côté aussi très premier, primitif, parce que quand on n'a pas d'outils, après on se les fabrique. Et donc, l'outil est juste quelque chose qui est qui va nous permettre. Donc là, ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de gravure, mais ça n'était pas une gravure à la pointe sèche. Donc c'était sur des vernis où on va enlever. Donc là aussi, l'outil peut être un clou, ça peut être une lame de rasoir, ça peut être une n'importe quoi, une branche. On enlève le vernis et ensuite ces plaques vont être trempées dans l'acide. Après, ça dépend si on travaille avec des eaux fortes. Donc là, c'est des systèmes de résine qui vont venir se poser sur la plaque qu'on va chauffer pour faire des masses de gris, de blanc ou de noir, etc. Mais tout ça, en fait, c'est pas, j'allais dire, c'est pas très important. C'est-à-dire que on dit les bons outils. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont des très bons outils, c'est-à-dire des très bons pinceaux, des très belles couleurs qui sont très chères, etc. Et le problème, ça n'est pas ça, c'est ce qu'on en fait. On peut très bien avoir vraiment... après, le problème, ça va être la tenue dans le temps. Par exemple, si on a des huiles qui sont un peu de mauvaise qualité ou des gouaches, etc. Mais c'est vraiment ce qu'on en fait et la liberté qu'on trouve à observer ou à constater ce qui nous reste, ce qu'on a plus, ce qu'on n'a pas. Et souvent, c'est avec ce qu'on n'a pas, on va ouvrir, casser une porte. Enfin, j'appelle ouvrir des portes. Ouvrir des portes, c'est trouver si c'est la démerde, c'est la bricole, c'est trouver de la liberté sans ou avec l'outil. Mais l'outil, c'est aussi le détourner. C'est un pinceau, on ne va peut-être pas forcément peindre avec un pinceau. Voilà, on peut épousseter avec un pinceau, par exemple, on peut faire complètement... Donc l'outil, pour moi, est pas, il est important, mais en fait presque pas. C'est-à-dire qu'on peut avec des chiffons faire des fonds. Bah, il n'y a pas de. J'aime bien cette idée de trouver une grande liberté d'action et quel qu'il soit. C'est-à-dire.
C'est-à-dire de faire avec ce qui est disponible au moment où on le fait.
Oui, oui, ouais, ouais. Et puis vraiment c'est ce qu'on en fait. Enfin, qu'est-ce qu'il advient de ce qu'on a dans les mains ou pas. Et puis c'est trouver moi j'appelle ça des combines ou des se surprendre aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on n'a pas ce qu'on aimerait ou par exemple si on a travaillé sur des très grands formats, moi j'ai pas forcément des pinceaux larges, voilà. Donc je trouve d'autres solutions. Je vais commencer par exemple par terre. Bon, quand c'est des très grands formats, c'est plus compliqué. Mais c'est trouver toujours quelque chose qui va nous servir, mais dans la continuation de là où on veut aller, ou ce qui va nous émerveiller. On ne sait pas où on va aller, mais c'est y a pas de. Je sais qu'il y a des gens qui sont très malheureux s'ils n'ont pas leur pinceau qui de 8 ou leur truc de 15. Moi, je m'en fous. Je vais faire autrement. Je vais trouver d'autres solutions. Je peux peindre. Je ne sais pas, ça m'est arrivé avec des plantes. J'avais plus de pinceau. Il restait des fougères dans le jardin qui n'avaient pas gelé. Et ben, la fougère devient. Voilà, on peint avec des fougères, on peint avec ce qu'on a. Le problème, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et ce qui va ressortir de tout ça. Le truc, il faut qu'il y a quelque chose qui ouais, la sortie de l'atelier, c'est est-ce que c'est très très bon ou est-ce que c'est très très mauvais. Mais à la rigueur, on s'en fout. Le truc, c'est d'avoir trouvé, c'est pas trouvé parce que c'est pas la trouvaille, mais de trouver des, et c'est pour ça que j'utilise ce mot trouver, mais des justesses entre ce qu'on veut dire, ce qu'on aimerait montrer ou ce qu'on tente de montrer avec tout ce qui nous entoure, et tout ce qui nous entoure est complètement multiple et infini. Donc c'est plutôt ça qui est excitant. Voilà. Après, on a un savoir-faire, effectivement, avec le temps. On s'habitue à certains pinceaux, on s'habitue à certaines toiles, supports, mais aussi ce que j'essaie de faire depuis toutes ces années, c'est travailler sur des médiums très très différents, parce que j'ai pas envie de me répéter. Donc travailler sur du médium, sur du papier, à l'acrylique, à l'huile, faire de la sculpture, faire de la... Le but, c'est que tout nourrit, tout sans fin. Donc il faut aussi se remettre en question chaque fois Et le fait de changer de support, on doit retrouver des parce qu'on va vite vers des habitudes. Quand on est un petit peu habile et qu'on a, voilà, à force de réfléchir et de voir, on peut très vite s'ennuyer. Et pour ne pas s'ennuyer, bon, j'ai trouvé la solution tous les un an et demi, de travailler avec des choses, passer du très petit au très très grand. Là, j'ai fait toute une série avec des pliages, des puzzles. Sur des toiles. Après, j'ai utilisé les boîtes des puzzles sur lesquelles je peignais. Enfin, ça, voilà, c'est il y a pas de matériaux nobles. Tout est exploitable dans le sens le moindre bout de papier peut devenir un truc incroyable si on a envie de voilà de. Donc c'est nos limites en fait, il y a pas de limite et là il s'avère qu'on va dire c'est une toile matériaux nobles etc enfin plus noble, mais c'est nos limites, il faut être comme ça. On est quand même en France assez systématique, assez classique, et on trouve une idée, enfin je veux pas, on trouve une idée, on la démultiplie à l'infini. Et je pense qu'il faut se remettre en question sans cesse, parce que l'atelier, c'est un laboratoire. Donc, il faut se mettre ça dans la tête, et on cherche, et il faut, on cherche, et c'est, voilà, ça, il faut que ce soit, ça reste un laboratoire et jusqu'à tout ce chemin qu'on a choisi de faire.
Ne pas cesser de trouver au sens d'inventer d'une certaine manière. Hein. Et est-ce que pour la couleur, par exemple, c'est la même chose que pour les outils, ou est-ce que là, il y a quelque chose de plus volontaire ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on sait très bien dans les peintures, on va dire, si on veut construire quelque chose qui va... on sait très bien comment fonctionne un jaune, si on met, si on remonte avec telle couleur, etc. Mais là, j'ai envie de dire oui, c'est la même chose, parce que ça m'est arrivé de ne plus avoir de telle couleur, et je ne suis pas la première. Et puis on fait avec ce tour, avec les moyens. Alors là, j'ai la chance d'avoir à peu près ce que je voudrais, on va dire, mais comme je travaille dans plusieurs lieux différents, parfois, j'ai laissé, je pars avec mes mallettes ou mes caddies et je ne sais pas quoi pour transbahuter. Donc, il y a des endroits où je n'ai presque pas de couleur, dont je vais faire un travail qui va être, par exemple, limité avec quelques couleurs. Après, là, le grand format, j'ai la chance d'avoir à peu près tout ce que je voulais. Et la couleur aussi, c'est pareil. La peinture, c'est de la fiction. Et non pas de la science-fiction. Ça, c'est la petite blague pour Marie et Stéphane qui vont écouter. Mais donc, comme c'est de la fiction et on est dans le complètement l'irréel, je veux dire, une tête verte ou, je veux dire, n'importe quoi, un chou rouge, je veux dire, on s'en fout. Moi, je ne suis pas dans un réalisme. Je ne cherche pas la chair, le rapprochement, le plus proche d'une couleur de chair, d'une justesse ou d'une vérité, parce que de toute manière, c'est faux. Alors, comme on part du principe où c'est faux depuis le début, j'ai envie de dire, autant que ce soit follement faux, et donc on n'a pas de... La justesse... même ça, c'est complètement con. La justesse, je veux dire, une quelconque quête de proximité et de réalisme, pour moi, elle m'est complètement étranger. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas du tout, parce que si j'ai envie de quelque chose de... je préfère la réalité quotidienne, enfin, la réalité, ce que je vois devant mes yeux, la chair, quelqu'un, un humain, mais par contre, dans les peintures, c'est open bar, quoi. C'est pareil, en plus, quand on utilise par exemple ce qu'on a devant nos yeux, c'est cette tête qu'on voit, on sait pas si c'est un masque, on sait pas si c'est une tête de par exemple ces crânes qui étaient remodelés, on sait pas si c'est des plumes, on sait pas si c'est un masque de carnaval ou un masque mortuaire. On ne sait pas si ça peut faire écho aussi au trophée qui était accroché des têtes réduites, etc. Donc là, le fait d'utiliser un vert violet, bleu, rouge, ça perturbe aussi la lisibilité de quelque chose qui, s'il avait été dans un traitement plus réaliste, ça fige. Et le but est de laisser de la place. Et même la précision, par exemple, de ce que j'ai dit, c'est presque à la limite trop. Parce que celui qui le voit, hier soir, c'était assez flagrant. Les gens sont... ils parlaient tous d'éléments de la peinture, mais ils racontaient tous des choses très, très différentes. Et c'est ce qui est intéressant. C'est il ne faut pas que ce soit fixé. Il faut qu'il y ait de la place pour un truc qui vibre.
J'ai pensé à Goya dans la façon dont, par exemple, la chair peut être exposée. Est-ce que ce type d'accompagnement, c'est quelque chose qui est constant chez vous ou c'est quelque chose qui est de l'ordre du surgissement ?
Effectivement, Goya, toutes les peintures noires, enfin on appelle les peintures noires, m'ont beaucoup touchée, émue et comme on dit, me parle dans le sens, m'emmène de l'autre côté du mur, c'est-à-dire ça dépasse la peinture. Ça n'est même plus une histoire de médium posée sur un support et c'est quelque chose qui emmène sur des territoires, moi qui me touche beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de mystères aussi. Et c'est, on pourrait parler de mystères dans les peintres qui me touchent. Et donc là, par contre, dans ce travail, parce qu'il y a une période où les peintures étaient de plus petit format, étaient, on va dire, dans des paysages plus... j'allais dire plus... Presque, c'était pas ça, mais plus classique, c'est-à-dire il y avait plus un horizon, on va dire un ciel, une terre. Donc dans la composition, quelque chose qui était lié effectivement au peintre qui me précède. Mais là, on est dans un espèce de, en ce moment, une espèce de saturation de l'espace, justement pour perdre encore... celui qui va se retrouver en face. Bon là, on distingue encore, il y a quand même un sol ciel, mais le ciel grignote la terre et la terre monte vers le ciel. Il y a des liens, il y a des lianes. Alors est-ce que c'est des sangles? Est-ce que c'est des lignes? Est-ce que c'est juste des lignes points? Est-ce que c'est des lianes végétales? Est-ce que donc là en ce moment je ne me sens proche de pas grand monde en fait pour l'instant. Enfin, en cette période précise, mais alors qu'il y a quelques mois, je travaillais sur un autre ensemble de pièces qui étaient des intérieurs. Donc c'était d'huile sur papier, et c'était d'après une gravure d'Autodix. Donc c'est un personnage qui est pendu, et on voit en fait par l'effacement du travail de la plaque de gravure, on voit son absence-présence en fait, qui s'est détachée de la chaise, et on voit ce monsieur qui s'est pendu. Donc j'ai repris cette gravure, ou j'ai repris la structure de la gravure, et j'ai repris donc en utilisant une fenêtre, et qui donnait un espèce de regard sur le monde extérieur, donc qui était un monde pas très drôle. Et donc là, ça peut être aussi dans des parties très précises d'une pièce, d'une peinture, d'une gravure, d'un artiste, et où ce travail-là, un travail va se développer à partir de... Mais il est très rare qu'il y ait tout l'ensemble d'un travail d'un artiste sur toute sa vie, parce que quand on parlait de Goya tout à l'heure avec les peintures noires, effectivement, c'est tout ce travail, où, d'ailleurs, quand il a été... Tout son travail plus classique et des portraits en pied, etc., me fait royalement chier. Après, donc c'est très rare d'avoir tout le chemin d'une... Enfin, j'aime pas ce mot-là non plus, carrière d'un artiste, que j'aime. Ça va être vraiment des fragments ou des morceaux. Et donc voilà, mais bien sûr que ça m'accompagne. Après, je fais attention parce que c'est parfois un grand danger. Et donc, il faut savoir, mais il faut oublier. Et pour oublier, c'est pas si simple que ça. Donc, parce quand on a trop regardé et aimé, on a tendance à... Et il faut aussi se détacher de ça. Et pour aller ailleurs, il faut savoir sans savoir, se souvenir sans se souvenir. Et donc je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais j'essaye d'oublier en permanence. Et c'est pour se sauver, hein. Sinon, ça peut être aussi un piège et la déroute. Parce qu'on est forcément séduit par des choses qui nous emmènent sur des territoires qui nous plaisent. Et donc, il faut couper aussi ça. On parlait de fracture, il faut aussi casser ça. Donc, il faut casser tout le temps et coller, et recoller, et coudre. Donc, voilà.
Revenons au titre de cette toile exposée à la VRAC de Millau, Sous le soleil exactement. Donc, vous nous avez parlé tout à l'heure de la Cardabelle et de cette évocation solaire. Mais est-ce que dans ce titre, il y a seulement ça ou il y a autre chose ?
Alors, le titre, je l'ai repris d'une peinture qui date de 2010. J'en ai pas parlé parce que... C'est une peinture en fait qui a un petit format, et donc j'ai fait pendant 2 ou 3 ans un gros travail autour de la guerre de 14-18, enfin pas que 14-18, la guerre en général, mais la guerre de 14-18. Et cette peinture en fait est une peinture qui était constituée donc de puzzles, de pliages, de découpages, et ce sont des soldats qui courent dans un paysage apocalyptique. Mais donc ce soleil est un découpage, d'ailleurs c'est une couverture d'artension que j'ai découpée, et le soleil est une espèce de papier fracturé, plié, mais tellement inclus dans la peinture. Et donc cette peinture s'appelait Sous le soleil exactement, parce que c'était le soleil qui brûle, mais le soleil des gaz chimiques. Donc c'est une peinture qui est très sombre, des gaz chimiques, des pluies d'obus, de ce soleil brûlant qui irradie et qui tue. Donc j'ai repris ce titre parce que Sous le soleil de Millau, parce que c'était aussi l'été, et quand on parlait d'ambiguïté, c'est les doubles lectures, c'est-à-dire le rapport qu'on peut avoir avec un titre et puis surtout avec la chanson de Gainsbourg, Sous le soleil exactement, qui a un côté vacances, etc. Et bon, moi, donc et ça n'avait rien à voir avec la chanson de Gainsbourg, mais je me suis dit, reprends le titre de cette peinture qui est assez terrible, en la basculant dans un... à Millau, qui sera donc cet été-là, avec un écho, forcément, puisque tout le monde, beaucoup de gens connaissent en tout cas cette chanson-là, mais c'était mettre un... Alors peut-être que voilà, les gens ne sont pas censés savoir tout le basculement et tout le cheminement qu'il y a eu pour le choix de ce titre, mais c'est un Sous le soleil exactement acide, j'allais dire forcément, forcément acide.
Christine Guinamant, cette œuvre, Sous le soleil exactement, elle va rester accrochée à la VRAC, à la vitrine régionale d'art contemporain de Millau, jusqu'au 29 septembre. Mais vous-même, peut-être que vous êtes déjà dans un travail futur.
Alors, en rentrant, on va se remettre au fourneau. Et là, donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il y a un projet qui est une expo collective, mais assez importante, au château de Maison Lafitte en 2018. Et donc la commissaire d'expo, Amélie Adamo, m'a proposé de faire 4 grands formats qui vont être accrochés dans une des très grandes pièces en arrivant, une des premières pièces du château. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que donc l'expo s'appelle « Loup, y es-tu ?» Et il va y avoir justement un travail aussi, on va dire, un rapport avec la végétation, parce que l'expo est plus ou moins organisée autour des bois qui n'existent plus autour du château. Et donc avec des éléments aussi qui, où on allait voir les éléments des motifs floraux par exemple ou des motifs de décoration, des meubles pour qu'il y ait un espèce de lien là du coup formel et aussi au niveau du récit avec les pièces qui vont être faites. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'il va falloir trouver donc d'autres solutions puisque ça va être comme des grands fanions. Et que je n'ai pas 5 mètres de hauteur de plafond pour les faire. Au sol, ça ne va pas être possible non plus. Donc là, du coup, on parlait aussi d'instruments, ou enfin d'outils. Donc il va falloir certainement que je trouve d'autres outils. Voilà, fixer peut-être des choses au bout de manches, ou alors faire des premières parties voilà, et mais en rouleau, comme des rouleaux japonais qu'on déroulerait. Donc ça, c'est assez excitant parce que c'est une nouvelle expérience. Voilà, donc ça, c'est pour l'année prochaine. Et puis là, dans les mois à venir, en septembre, il va y avoir un livre qui va sortir aux éditions de l'Atelier Contemporain qui est à Strasbourg. Donc ça, c'est j'appelle ça des dessins peintures qui sont des acryliques sur papier que j'ai fait autour d'un texte de Bruno Krebs et qui va sortir donc en septembre avec, il y aura 13 reproductions en fait des dessins. Et qui sont aussi liés, parce que le titre du livre, du récit de Bruno, s'appelle « Dans les prairies d'asphodèles ». Et donc du coup, ce qu'il y a d'assez drôle, c'était pas prévu, mais les asphodèles, on les retrouve ici aussi, dans la végétation qui nous entoure autour de Millau. Et donc là, c'est tout un travail avec donc donc il y a beaucoup de végétaux, mais donc où j'ai fait d'autres systèmes pour la première fois, j'ai utilisé des impressions en fait de végétaux parce que l'hiver il n'y avait pas eu beaucoup de gel, donc on trouvait encore des fougères, etc. Donc là aussi, il y a une multitude d'écritures dans ces dessins. Et donc voilà pour ce livre qui va être très beau. Parce que la maquette était prête et donc ça devrait sortir mi-septembre.
C'était Christine Guinamant à la Vrac de Millau, un entretien proposé par Nicolas Vorel, une production Radio Larzac 2017.